Chapitre 12. La perdrix. Incapable d'attendre dans le trou de la fontaine du Planet, Martin avait suivi la chasse depuis le matin. Utilisant les plis du terrain, les haies et les boquetots, il n'avait pas quitté des yeux le mantel de velours vert de Gaillette sur la croupe du cheval noir, et surtout l'oiseau posé sur le gant de la dame, et qui était son oiseau, à lui. Soudain, il avait vu la perdrix s'envoler, le rapace gagner du terrain, se rapprocher régulièrement de la fugitive, la survoler, tomber. Alors, sans réfléchir aux conséquences de son acte, il avait bondi hors de l'abri des vignes et s'était jeté sur les deux oiseaux. « Tout doux, mon beau, tout doux, tout doux !» Mais les mots des jours d'amitié n'avaient plus le même son. Ce n'étaient plus les appels heureux dans les crépuscules de l'été, ceux qui mettaient un terme aux longues courses sous les arbres. Ils étaient dits dans l'épouvante, comme un cri désespéré. Celui auquel ils s'adressaient ne les comprit pas. Il ne pouvait plus les comprendre. Resserrant sa prise, le rapace fit son métier de tueur aussi bien, aussi sûrement qu'on le lui avait appris. « Là, là !» sanglota l'enfant. « Laisse, laisse !» Il n'entendait pas le galop des chevaux qui allaient le piétiner. Il ne sentait pas sur ses mains les déchirures profondes que les serres du faucon ouvraient. Il défendait follement un petit sac de plumes très douce, à la tête d'odelinante, déjà inerte. Le hobereau, étonné de cette lutte à laquelle l'affêtage ne l'avait pas préparé, s'éleva lentement pour répondre au sifflement contenu du fauconnier qui lui tendait une lanière de viande. Martin resta au milieu du sillon, secoué de sanglots, la perdrix encore chaude pressée contre sa poitrine.
« Qui es-tu ? »
gronda un chasseur en cabrant son cheval. Il ne répondit pas. Que pouvait-il répondre ? Il n'était qu'un cerf qui contrecarrait la chasse de son seigneur. Il continua de pleurer en regardant les ailes brunes au reflet bleuté de la perdrix. Les cavaliers l'entourèrent, les uns riant, les autres protestant. Les chevaux piaffaient, les chiens jappaient. Lui, au milieu de ce vacarme, attendait la punition qu'on infligeait au cerf indocile.
« Es-tu fou, Manon ? Ou bien me braves-tu ? » s'écria Guilhem.
Martin, cette fois, aurait voulu dire quelque chose. Mais que dire ? Il éleva à bout de bras le corps sanglant de la perdrix et sans un mot l'offrit à son maître. Au même moment, Gaillette arriva. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle. « Que veut cet enfant ?» Le fauconnier s'avança. Avec une lenteur étudiée, déposa le faucon sur le point de la châtelaine. « Il y a, très noble dame, que ce Manon ose disputer l'oiseau que voici à son seigneur. »
« Que dites-vous là ? » fit le chevalier.
Gaillette connaissait le caractère impétueux du châtelain. « Comment t'appelles-tu, enfant ? » demanda-t-elle pour couper la parole à Guilhem et lui laisser le temps de se ressaisir. « Martin. »« Comment dis-tu ? » reprit Guilhem, sur ce ton direct qui était le sien. « Martin, messire. »« Le fils de Brichot, le bûcheron ? » ?»« Oui, messire. » »« Serait-ce toi qui as sonné la cloche quand l'ennemi arrivait ?» L'enfant hésita sur la réponse à faire. De cette réponse pouvait sortir tout le bien ou tout le mal. Il vit que le fauconnier s'éloignait un peu, comme s'il se fût absorbé dans la surveillance de ses oiseaux.
« Ne peux-tu pas répondre quand ton seigneur t'interroge ?»«
Oui, messire, c'est moi. »
Un sourire passa sur le visage de Guilhem.
« Ah, te voilà enfin ! Sais-tu qu'il y a 8 jours que je te fais chercher, méchant drôle ? Où étais-tu donc ?»
Il n'attendit pas la réponse. Se tournant vers les invités de la chasse, il s'exclama.
« La chose est plaisante, ne trouvez-vous pas ? Mes vilains n'ont pas encore de poils au menton qu'ils sauvent mon château et me disputent mon gibier. Allons, petit, n'aie pas peur. Je te faisais chercher pour te récompenser. Nous te devons bien cela, tous tant que nous sommes. Que désires-tu ?
Je te le donne déjà. »
Martin tremblait comme une feuille. La juvénile gaieté de Guilhem Arnal l'épouvantait plus que sa colère. Elle le prenait au dépourvu. Ainsi donc, c'était pour le récompenser que le seigneur l'avait appelé, que les gardes étaient venus le chercher ? La grande peur de la mer, les fuites de nuit dans les bois, les longs jours cloîtrés dans le monastère, tout cela, c'était pour rien.
« Eh bien, que veux-tu ? Cette perdrix pour ta marmite ? Un sac de blé ? 6 pains ? Tu n'as qu'à demander. Je prends ici toute la compagnie à témoin. Je t'accorderai ce que tu voudras. »
Martin, du revers de sa main, marqué de sang, essuya ses larmes. « Ce que je voudrais, messire. » « Ton insistance m'offense. Douterais-tu de la parole de ton seigneur ?» Une résolution brilla dans les yeux de Martin. « Messire, c'est lui que je veux. » De son doigt tendu, il montrait le hobereau posé sur le point de Gaillette. Les nobles cavaliers rirent à gorge déployée. Jamais ils n'avaient vu une audace aussi drôle. Un Manon, et d'une douzaine d'années encore, qui réclamait un oiseau de proie. Guilhem cacha sa surprise. Il fronça les sourcils, ne répondit pas aussi vite qu'il aurait dû, mais dit enfin.
« Ah, voilà bien que tu m'embarrasses. Je ne trahirai pas ma promesse. Cet oiseau serait à toi s'il m'appartenait. Mais il ne m'appartient pas. Choisis-en un autre dans ma fauconnerie.
Non, messire, c'était celui-ci que je voulais. Le voici, fit Gaillette. Ce faucon m'appartient, et la parole de ton seigneur est aussi la mienne.
Nous te devons beaucoup, enfant. Sans toi, nous ne chasserions point peut-être à cette heure. Tiens, prends-le, il est à toi.
Les rires se turent. Elle abaissa son poing de telle sorte que le faucon encapuchonné fut au niveau du visage de Martin. L'enfant hésita, regarda la châtelaine qui lui souriait, inclinée vers lui, puis il approcha sa main. Au moment de saisir l'oiseau, il la retira précipitamment.
« Je remercie leur seigneurie, fit-il, mille fois, je les remercie mille fois !»«
Ne remercie pas, répliqua Guilhem, tu es le diable en personne !»
Le jeune homme se tourna vers le fauconnier qui prudemment se tenait en arrière. « Fauconnier, appela-t-il, c'est un peu à vous aussi que nous devons d'avoir entendu la cloche d'alarme. N'est-ce pas vous qui avez mis ce marron en position de guet ?»«
Seigneur, tenta d'expliquer le fauconnier en s'approchant, croyez bien que... »«
je sais, mais donnez donc votre gant à cet enfant, ses mains ne sont déjà que trop blessées. »
Le fauconnier pâlit sous l'emprise d'une colère qu'il n'osait laisser éclater. Il ne put se résoudre à tendre le gant. L'arrachant vivement de sa main, il le jeta dans l'herbe aux pieds de Martin. Puis risquant tout après une telle offense, il piqua des étriers et s'éloigna au grand galop. Dans les yeux de Guilhem, une petite flamme malicieuse brillait. L'enfant ramassa le gant et envêtit son poing. Autour de lui, les cavaliers se remirent à rire, mais sur un autre ton. Ils s'amusèrent de son air buté, de cette gravité de son visage aussi. Comment pouvait-il se douter qu'en Martin, il n'y avait en ce moment aucune joie, et que ce n'était plus un ami que l'enfant retrouvait ?
Voici ton bien, dit Gaillette en tendant l'oiseau. Il est à toi, tu l'as bien mérité. Je te le donne et te remercie.
Guilhem Arnal déjà s'impatientait. Est-ce que la chasse va s'arrêter là ? S'écria-t-il en tournant bride. Nous avons encore 3 éperviers à lancer. Déjà, il brûlait du désir de repartir. Son grand cheval noir dansait sur place dans les sillons, pendant que les invités à leur tour faisaient volte-face. « Un hobereau si magnifique !» murmura son voisin, un vieux chevalier qui s'essoufflait à suivre la chasse. « Mon cher Eudes, répondit son compagnon, vous connaissez les soupex, ils n'ont qu'une parole. »«
Tout de même, un manant !»«
Eh oui, même avec les manants, mais vous avez raison, c'est pure folie !» Martin le regarda s'éloigner, son poing tremblait tellement que le hobereau décroisa les ailes et doucement accentua sur le gant la crispation des serres.